With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
2,21 chinois! Mon Dieu! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Faux, totalement faux, n'importe quoi, c'est toi qui es mort. T'es totalement mort. J'ai l'impression que t'as pas bien saisi la nuance, Kevin.
Oh, j'ai le cerveau qui cogne à gauche, là. Alors, reposez-moi. Oh, j'arriverai jamais jusqu'à la pharmacie.
En plus, j'étais sûr que tu étais mort.
Spoiler, alerte. À moins d'une invention miracle, la mort, ben, on a peu de chances d'y couper. La bonne nouvelle, c'est que l'on sait un peu mieux à quoi nous attendre. Bien que frappant toujours par surprise, le coup de la grande faucheuse n'est pas aussi net et instantané qu'on le pensait jusqu'alors. Une étude internationale affirme en effet qu'après un arrêt cardiaque, le passage de vie à trépas prend environ 10 minutes dans le cerveau. Durant ce laps de temps qui nous sépare de l'extinction définitive du système nerveux central, les neuroscientifiques ont découvert comment notre corps livrait bataille avant de succomber. Alors que la vie n'a pas dit son dernier mot, mes invités du jour attendent patiemment de prononcer leur première phrase. Pour cette émission, je serai en minorité puisque nos amis de Sciences et Avenir sont venus en force. Le cerveau mieux électrifié que jamais, Elena Sender est la spécialiste en neurosciences de la rédaction. Bonjour Elena.
Bonjour Romain.
Notre second thanatopracteur se nomme Hugo Gélinière et il est le porte-étendard de la rubrique santé du magazine. Bonjour Hugo.
Bonjour Romain.
Bon, on va pas changer les vieilles habitudes, hein. J'aimerais qu'on commence par un mot de vocabulaire. C'est quoi la mort ?
C'est la disparition irréversible de l'activité cérébrale. La mort, elle se définit avant tout par son caractère irréversible.
Et comment on s'assure de la mort clinique d'un individu ?
Alors, la mort clinique, c'est une chose, c'est-à-dire qu'il y, y a un arrêt cardio-respiratoire, mais la mort clinique, c'est pas la mort de l'individu, puisque c'est le moment où, généralement, on fait le massage cardiaque, on insuffle, et on fait en sorte que le cerveau survive suffisamment longtemps pour réenclencher le processus de vie, le rythme cardiaque et la respiration. Mais la mort, elle se réduit finalement à la mort définitive du système nerveux central et la disparition de toute activité dans le tronc cérébral.
Donc c'est l'électroencéphalogramme plat, c'est ça ?
En quelque sorte, sauf que l'étude dont tu parlais montre que l'électroencéphalogramme plat n'est pas suffisant justement pour diagnostiquer la mort.
Parce qu'aujourd'hui, je me permets de rebondir sur cette question, c'est pour déclarer que quelqu'un est mort, est vraiment mort de façon irréversible, il ne reviendra pas, comment on le mesure ? Comment on affirme ce diagnostic ?
Alors, le diagnostic est différent selon les pays. C'est très variable selon les pays. Aux États-Unis, par exemple, c'est un diagnostic qui n'est que clinique. On va tester la réaction du tronc cérébral. Est-ce qu'il y a encore des réflexes ? En France, à ce diagnostic clinique, on rajoute des paramètres paracliniques. Ça peut être tout un tas de choses. Il faut que le corps soit à distance de tout médicament, de toute situation d'hypothermie notamment, ou qui rend plus difficilement détectable une activité cérébrale persistante. Mais grosso modo, il y a l'idée de faire, en France en tout cas, il y a l'électroencéphalogramme plat une fois, et puis de le refaire ensuite.
Oui, parce que comme on va le voir, un électroencéphalogramme plat pris une seule fois ne veut pas dire que le cortex cérébral est complètement mort.
Moi, je vais lui dire deux mots à mes règles.
C'est un malentendu.
Tout est malentendu dans la vie, même la mort.
On va y venir, hein. Mais justement, l'électroencéphalogramme, qu'est-ce qu'il mesure justement ? On a beaucoup utilisé ce terme déjà.
Bien sûr, alors ce sont des électrodes qu'on met sur le cuir chevelu et qui mesurent l'activité du cortex, mais à travers le crâne. Donc, c'est une activité qui est assez forte. Et on va le voir dans l'expérience dont on parle depuis.
On tease.
Voilà. C'est que là, les chercheurs ont voulu aller voir ce qui se passait sous le crâne. C'est-à-dire, même si on a un EEG, on va appeler ça l'électroencéphalogramme, c'est l'EEG inactif, est-ce qu'à l'intérieur du crâne, on n'aurait quand même pas une activité?
Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont posé des électrodes sur le cerveau de patients mourants, en tout cas dont on était assuré qu'ils allaient mourir et qui étaient d'accord.
Sous le crâne, ce qui permet évidemment de percevoir des signaux électriques, de mettre des électrodes directement sur le cerveau, permet d'enregistrer des signaux beaucoup plus faibles.
Et là, en l'occurrence, dans le cadre de cette expérience, donc qui est une expérience internationale, c'est ça, hein, de chercheurs du monde entier, qui était, je crois, diligentée en quelque sorte par un chercheur allemand, si je dis
oui, qui était dirigé depuis un hôpital de Berlin, un neurologue, Jens Dreyer, spécialisé donc, dans les atteintes du cerveau, que ce soit AVC, traumatique ou autre.
Est-ce que tu peux me préciser le contexte de cette étude? C'est-à-dire, on a pris quoi comme patient? Parce que j'imagine que mesurer la mort de personnes, alors que...
C'est exactement ça. Et généralement, quand quelqu'un est mourant, la médecine s'attache à le sauver. Voilà. En l'occurrence, c'est 9 patients qui ont été admis à l'hôpital pour des traumatismes cérébraux sévères. Alors, c'est soit une atteinte cérébrale traumatique, un accident, il y en a un qui a été touché par une balle ou des accidents de la route, et puis d'autres, des embolies cardiaques. Une embolie cardiaque qui a donc interrompu le flux sanguin arrivant au cerveau et qui se retrouve avec des lésions cérébrales très grave. Il se trouve que ces 9 patients, au bout d'un certain temps, on prend acte du fait qu'ils ne peuvent pas être réanimés. Eux-mêmes ont donc des directives pour demander la non-réanimation, ce qui a permis aux chercheurs d'aller monitorer le cerveau, donc avec cette technique d'électrode directe invasive qui peut être utilisée dans des cas pas désespérés non plus, parce qu'elle permet une surveillance plus importante. Donc cette technique, l'électrocorticographie, qui est différente donc de l'électroencéphalographie, va mesurer donc une activité électrique faible dans le cerveau. Donc ces patients qui étaient destinés à être débranchés, on leur enlève l'assistance respiratoire, etc., ont pu être inclus dans un protocole d'étude. Et c'est sur ces 9 patients qu'ils ont observé la mort, mesuré ce qui se passe concrètement dans le cerveau après qu'on ait coupé la respiration artificielle et la circulation sanguine.
Mort. Faut que vous disiez mort. Elle n'est pas finie, votre phrase. Ça veut rien dire, il était déjà.
Ok, alors avant, je continue à teaser un petit peu, hein, je prends mon temps, mais pourquoi on va surveiller l'activité électrique dans le cerveau? Pourquoi il y a de l'électricité tout simplement dans le cerveau?
Mais les neurones fonctionnent avec de l'électricité. Par échange d'ions, c'est-à-dire des molécules chargées, chaque neurone provoque des potentiels d'action. Je ne sais pas si c'est un mot peut-être technique.
Court-circuit, c'est quoi?
Les neurones fonctionnent avec de l'électricité par échange d'ions, c'est-à-dire des molécules chargées électriquement, et ils génèrent des flux électriques le long de leurs fibres, et de proche en proche, et transmis aux neurones prochains. Et le cerveau ne fonctionne que comme ça.
Ok, pour moi c'est très clair. Donc maintenant, on sait ce qu'on mesure, on sait avec quoi on le mesure. La vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on coupe tout et que le cerveau est laissé là, comme ça?
Alors, d'abord, pas grand-chose, mais enfin, quand on coupe un arrêt cardio-respiratoire, typiquement dans les 20 à 30 secondes, la personne perd connaissance. C'est la première des choses. Ce que les chercheurs ont pu observer, qui est plus intéressant, c'est que pendant les 2-3 minutes qui suivent cet arrêt de la respiration et du flux sanguin, les neurones vont se mettre comme dans un système de veille. Ils vont fonctionner à l'économie d'énergie. Donc tout d'un coup, il y a une espèce de grand silence qui se fait dans le cerveau. Il n'y a plus d'activité électrique parce que les neurones ont repéré que leur principal apport d'énergie qui passe par le sang et qui leur permet d'avoir cette activité électrique, n'existait plus. Donc, ils s'économisent. Ils ont une réserve énergétique contenue dans leurs cellules, les mitochondries, et ils vont fonctionner sur cette réserve pendant 2-3 minutes.
Mais au bout de 2-3 minutes, ils ont faim, quoi.
Si le flux sanguin n'a pas été rétabli, ça pose un problème. Et ce qu'on a pu observer avec l'électrocorticographie, c'est qu'il va venir un moment où un ou deux ou plusieurs neurones vont craquer. Ils n'ont plus d'énergie. Et donc, là, ils meurent. Et dans cette mort, ils vont libérer les derniers ions et les derniers la charge de neurotransmetteurs qui leur reste, en fait.
Ils explosent en quelque sorte.
C'est une forme d'explosion, d'implosion. Et ce mécanisme fait que en relâchant les derniers ions, il envoie un message via les synapses qui le relie aux autres neurones et il va entraîner une réaction en chaîne.
Un domino, c'est des dominos.
Exactement, c'est l'effet domino. Il y a un neurone qui craque et en craquant, il va faire craquer ceux qui sont autour de lui et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ce que les chercheurs ont pu enregistrer, c'est cette vague électrique qui parcourt le cerveau et qui conduit tous les neurones à s'éteindre de façon définitive.
Ouais, le chercheur parle même de tsunami, c'est ça, de tsunami cérébral.
La dernière vague cérébrale qui, petit à petit, va aller toucher les différentes zones du cerveau et...
Voilà.
Ouais. Qui vont mourir.
Et pendant ce temps-là, le patient, lui, n'a conscience de rien. Il ne ressent plus rien. Enfin, on ne sait pas...
Alors, oui, normalement... J'ai envie de répondre oui, puisque, comme tu le disais, Hugo, la personne a perdu connaissance, donc elle a perdu conscience. Cependant, nous avons un chercheur qui s'appelle Sam Parnia, et qui est donc un spécialiste de réanimation américain, qui a fait une étude, une drôle d'étude, en 2014, il a publié ça en 2014, sur 140 survivants d'arrêt cardiaque. Et il leur a tout simplement posé la question, de quoi vous vous souvenez, etc. Et sur ces 140, bon, c'est pas une très grosse étude, mais enfin quand même, sur ces 140, 2% de ces survivants se souvenaient très exactement de ce qui s'était passé pendant la réanimation. Mmh. Alors, évidemment, c'est très troublant. Sam Parnia, lui, va très loin, c'est-à-dire qu'il pense que notre conscience est désincarnée, c'est-à-dire qu'elle n'appartiendrait pas au cerveau. Ce serait, alors là, on part dans presque de la science-fiction.
L'ésotérisme. Hein.
Ouais. Oui, ce serait une sorte de
corps astral.
Oui, que l'on capterait. Bon. Et d'ailleurs, il a lancé une nouvelle étude où il va présenter, lorsque les gens sont en arrêt cardiaque, il va leur présenter sur un écran des indices visuels, des indices sonores, pour voir si à leur réveil, si jamais ils en réchappent, ils se souviennent vraiment. Mmh. Donc il veut continuer à creuser cette piste. Maintenant, vu ce qu'on a appris avec James Dreyer et ses 10 minutes pour mourir, alors que le cerveau qu'on pensait en EEG plat est finalement plus actif qu'on le pensait pendant ces 10 minutes, finalement, on se dit, bah, peut-être que pendant ces 10 minutes, le cerveau peut quand même accéder à une certaine forme de conscience.
Et la femme du voisin, dans le coma depuis des mois, a en réalité choisi d'effectuer d'une traite la totalité de ses heures de sommeil.
Comme ça, je pourrais rester éveillée jour et nuit le reste de ma vie.
Donc là, on parle des expériences de mort imminente, ce genre de choses. Le tunnel, la lumière blanche et éventuellement les gens qui explorent
Ça pourrait faire partie de ces états modifiés de conscience ou même altérés, ces états altérés de conscience qui surviennent lorsque le cerveau est vraiment en danger de mort. Et l'expérience de mort imminente, vous voyez tout ce que c'est.
Oui, c'est ce qu'on disait, c'était le tunnel où les gens qui sortent de leur corps.
Voilà, qui sortent de leur corps, mais aussi qui racontent, en tout cas. Et là, on a des centaines et des centaines de témoignages de gens qui racontent rencontrer des proches disparus, voir une lumière extrêmement brillante, extrêmement chaleureuse, être très enveloppée d'amour. Donc et ce sont des expériences très marquantes. Mmh. Ça marque les gens à vie, hein, une fois qu'ils ont vécu ça. Sachant que pour 14% de ces expériences sont négatives. Donc ça peut être des expériences de mort imminente extrêmement traumatisantes. Bon, mais on va rester positif.
Mmh. J'ai vu ça justement lors d'une émission, en préparant cette émission, que si jamais on faisait ces tests, donc c'est-à-dire que on essaye de faire voir ou de faire percevoir à quelqu'un qui est proche de la mort, des signaux, et en espérant que si jamais il est désincarné, il perçoive ces signaux, il s'en rappelle, mais est-ce qu'il ne sera pas plus potentiellement, si jamais ça se produit, attiré par cette lumière blanche ultra chaleureuse, plutôt que par les signaux qu'on va lui mettre dans la salle d'hôpital. Enfin, c'est un peu absurde, non?
Pour l'instant, toutes ces expériences ont échoué, donc il faut encore creuser. Non, nous, ce qu'on raconte dans notre enquête, c'est que visiblement, on commence à avoir une piste biologique très crédible. C'est-à-dire que des expériences ont été faites à Londres et à Liège, de donner des drogues très spécifiques à des personnes tout à fait saines, hein, pas du tout en danger de mort, et ils ont vécu une expérience de mort imminente. Donc on est en train de se dire que peut-être que quand les neurones sont en danger mortel parce qu'ils manquent d'oxygène, ils produisent une substance qui ressemble fort à une drogue très forte et qui va provoquer ces phénomènes.
Mais du coup, si on réveille ces personnes, enfin si on arrive à ranimer ces personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, est-ce qu'elles se réveillent avec des séquelles? Parce que justement, on a parlé d'effondrement cérébral du cerveau, du fait qu'on avait limite une implosion des neurones, mais quelles séquelles, s'il y en a, ces personnes se réveillent ou sont réanimées?
Alors ça, c'est très variable en fonction des zones du cerveau touchées, et c'est une des choses qu'on a cherché à savoir. Il y a des zones plus fragiles que d'autres. Les neurones dans l'hippocampe, une zone clé dans la constitution de la mémoire, notamment, sont par exemple particulièrement sensibles à l'hypoxie, à l'absence d'oxygène transporté par le sang. D'autres sont plus résistantes. Le tronc cérébral, ce qui en un sens paraît logique, puisque le tronc cérébral, si une personne est réanimée et a énormément de séquelles, le tronc cérébral qui reste, c'est ça qui fait qu'elle est encore vivante, qu'elle va avoir des mouvements réflexes, etc. Donc c'est très compliqué de savoir, après un arrêt cardiaque par exemple, quelles zones du cerveau sont touchées en premier. Et puis on se rend bien compte que dans ces cas de réanimation, il y en a qui vont avoir de fortes séquelles, d'autres moins, alors qu'ils sont restés plus longtemps en état d'arrêt cardiaque. Donc c'est extrêmement variable en fonction des personnes et des conditions dans lesquelles, pour lesquelles ils se sont retrouvés en état de mort clinique. Ça c'est très compliqué, mais pour revenir sur l'expérience de mort imminente, c'est vrai que c'est provoquer une expérience de mort imminente par des drogues apporte des éléments de réponse assez importants. Et puis dans cette étude dont on parle beaucoup, James Dreyer émet l'hypothèse que ces expériences d'EMI, donc comme on dit, pourraient être l'effet de ces 5 minutes où les neurones sont agressés ou commencent à mourir. Il peut se passer quelque chose dans l'activité électrique qui va déclencher ces expériences.
Ce délai de 10 minutes donc, entre l'arrêt cardiaque et la mort définitive du cerveau, est-ce qu'il a changé quelque chose dans, par exemple, les pratiques de réanimation ou dans le temps que se donne le personnel médical pour considérer qu'une personne est vraiment morte ou pour la sauver? C'est-à-dire qu'avant, peut-être qu'au bout de 5 minutes, on disait « bon, on arrête la réanimation ». Aujourd'hui, en se disant qu'il y a peut-être, on peut sauver quelqu'un jusqu'à 10 minutes.
Alors non, la réanimation, les délais de réanimation évoluent beaucoup, en effet, mais pas à cause de ces 10 minutes. C'est les 10 minutes de l'étude James Dreyer, c'est quelque chose de très particulier. Et puis, c'est surtout que ça étudie des gens qu'on ne réanime plus. Mais ce qui est très surprenant ces dernières années, qui est de plus en plus fréquent, c'est d'avoir des cas de mort clinique qui ont duré plusieurs heures. 8 heures, 10 heures, 18 heures, jusqu'à 40 heures pour un Français l'année dernière près de Béziers, qui a été massé, donc un massage cardiaque pendant des heures et des heures.
Et pendant ce temps-là, le cerveau, lui, il est irrigué, oxygéné, mais aucune activité.
Non, alors il a très peu d'activité, mais il est très faiblement irrigué par le massage cardiaque qui va rétablir au mieux 30% du flux sanguin. C'est suffisant pour que les neurones ne soient pas dans l'état de souffrance observé dans l'étude Dreyer. Mais oui, les pratiques en réanimation sont très variables, ne serait-ce que sur l'insufflation, le bouche-à-bouche. Et c'est pour ça qu'il faut aller faire des formations au premier secours régulièrement.
Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme? Mon heure est venue.
Et dans ton article, tu dis également que le paramètre humain, au moment de la réanimation, il est quand même super important. C'est-à-dire que les premières minutes d'intervention pour réanimer quelqu'un, elles vont être très propre, c'est-à-dire que le personnel médical va être très efficace, et puis au fur et à mesure, le corps est de moins en moins bien oxygéné du fait du mouvement qui est moins précis.
Les compressions thoraciques dans le massage cardiaque, c'est quelque chose de très fatigant, et d'autant plus fatigant que ça nécessite d'avoir une régularité, une continuité dans le mouvement, qui est vraiment cruciale dans la qualité de la réanimation. Et c'est pour ça, on l'évoque dans le dossier, que de plus en plus sont testées des machines à compression thoracique automatique. C'est-à-dire qu'on installe le patient une espèce d'armature avec un piston qui va s'occuper de faire le massage cardiaque. C'est particulièrement pertinent pour les premiers secours, les pompiers, parce que ça permet de libérer des mains pour faire d'autres choses dans la réanimation. Et puis, cette régularité qui va réduire le risque de séquelles, parce que la moindre irrégularité dans le massage cardiaque peut avoir des effets.
Oui, c'est ça. Si on irrigue moins bien le cerveau, fatalement, on a des neurones qui sont moins bien.
Mais en effet, des études ont montré que les humains fatigués dès la deuxième minute et que la qualité des compressions thoraciques diminuait. Et ça va très, très vite.
Et est-ce que cette étude-là change quelque chose sur la question du don d'organes, en posant la question du le cerveau met quand même du temps à mourir. À partir de quand on peut intervenir et à partir de quand on considère que le cerveau est mort?
Alors, de toute façon, dans le cas du don d'organes, il y a des protocoles particuliers qui font qu'on prélève pas l'organe dès que la personne est morte. Pourquoi? Tout simplement, la personne est déclarée en mort cérébrale, on peut continuer à alimenter l'organisme, à avoir un flux sanguin artificiel ou une respiration artificielle. La personne est en état de mort cérébrale, on peut attendre quelques heures avant de prélever l'organe.
Ok, je pose la question parce que j'ai lu une étude qui parle d'une expérience faite sur des animaux, sur des cochons en l'occurrence, à qui on a coupé la tête et qu'on a réirrigué quelques heures plus tard, et on a observé que certaines zones du cerveau continuaient à fonctionner. Alors, ils n'ont pas observé de conscience, ou en tout cas de sensation dans les têtes des cochons, mais en l'occurrence, ils ont constaté qu'il y avait une activité dans certaines zones.
Oui, alors ça fait partie des choses qu'on a été obligé de couper, nous, dans notre dossier. Ça, c'était un crève-cœur.
Mais en effet, le
cerveau des cochons morts depuis 4 heures, donc, a été prélevé et mis sous perfusion par une machine un peu particulière, BrainX. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de reperfuser les cerveaux de ces cochons. Donc mort depuis 4 heures, donc quand même bien, bien mort. Et ils se sont rendus compte, alors, il n'y avait pas d'activité électrique. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont rétabli une activité métabolique dans les autres cellules qui composent le cerveau. Voilà, on est loin de ressusciter qui que ce soit, cochon ou pas. Mais oui, en effet, ça montrait qu'en gros, les cellules qui ne sont pas électriques dans le cerveau vont mettre un peu plus de temps à mourir. Mais c'est le même cas que dans n'importe quel organe. Un bras qui est infecté, une blessure s'infecte, il va entrer en nécrose. Toutes les cellules meurent pas d'un coup. La mort est un processus. Et quelque part, c'est un peu ça qui montre. On prend le cerveau de ces cochons 4 heures après leur mort, on les reperfuse, il y a encore des cellules qui bougent.
Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se desséchait.
Oh, parisante!
Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pois chiche.
Ok. Elena, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'est que la réanimation fait des progrès absolument extraordinaires. La conséquence de ça, c'est qu'on va aussi entraîner de plus en plus de personnes qui sont en état modifié de conscience ou même en état altéré de conscience, c'est-à-dire dans des comas, des états végétatifs, anciennement végétatifs d'ailleurs on dit, d'états d'éveil non répondants, comme Vincent Lambert.
Oui, c'est-à-dire qu'on met par exemple de la lumière dans les yeux, c'est ça? Il n'y a pas de réflexe, c'est ça?
Voilà, okay. Ce sont des personnes qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes ou conscience de leur environnement. La réanimation, c'est formidable, mais aussi ça crée aussi d'autres problèmes pour des patients qui malheureusement sont très négligés aujourd'hui. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'a été lancée cette campagne d'appel à remplir les directives anticipées.
Alors, je veux bien que tu m'expliques de quoi il s'agit.
C'est un formulaire que l'on remplit en ligne pour, en quelque sorte, donner ses dernières volontés si jamais on se retrouve, après une réanimation, dans un état de conscience altérée.
Ok. Donc, en gros, pour dire, maintenez-moi en vie.
Ou, voilà, je suis d'accord pour le don d'organes, je suis... en tout cas, on peut s'exprimer. Et ce qui d'ailleurs, le cas échéant, est pris en compte, hein, en priorité. Donc c'est très,
cette question des directives était centrale dans l'affaire Vincent Lambert. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de la famille qui disait quelque chose, une autre partie de la famille qui disait autre chose, mais lui voilà, n'avait jamais
exprimé sa volonté.
Il est pas beau, mais
c'était son épouse et les parents qui étaient opposés. Voilà.
Alors qu'avec les nouvelles lois, c'est vraiment la volonté du patient, si elle a été exprimée, prime.
Très bien, voilà. C'est très clair. Bon, on termine sur une note qui n'est pas très très joyeuse. Malheureusement, non. Alors j'avais prévu une conclusion qui disait que on a finalement plus parlé de la vie que de la mort, mais c'est faux. On a finalement pas mal parlé de la mort, mais on a évoqué quand même quelque chose qui est assez intéressant. C'est le dernier combat, le dernier round un petit peu, ou le dernier round même, qui mène justement de la vie au trépas. Et je me dis que c'est une belle façon quand même de conclure et de vous laisser avant notre prochain épisode. Elena et Hugo, merci à tous les deux d'avoir joué les oiseaux de pas si mauvais augure. À l'attention des neurones du fond, je répète que vous êtes les spécialistes en neurosciences et en santé du magazine Science et Avenir. Et pour terminer, je vous encourage bien sûr, auditeurs, mais aussi les personnes présentes dans le studio, à maintenir votre cerveau en activité. Parmi les propositions qui me viennent en tête, vous pouvez le faire en laissant par exemple un commentaire plein de vie et de bonnes ondes cérébrales sur notre page iTunes ou en nous écrivant à audio@20minutes.fr. À dans un mois, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Aka, t'es mort ?
Oui, man.
Non, fais dodo. Manon est mort.
Oh.
2,21 chicorois. Mon Dieu.
Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.